Salut à tous, bienvenue dans l'After FC, l'émission de RMC Sport qui raconte le quotidien, les problématiques des personnalités du monde du foot. On est en direct sur la chaîne YouTube After Foot, sur la chaîne After Foot Télé, sur la chaîne Twitch RMC Sport. On salue déjà Race Dragon et J'ai pas de Luc qui sont avec nous. Toutes vos questions évidemment pendant toute l'émission. L'After FC qui est également disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Dans l'After FC aujourd'hui, Loïc Moreau. Salut Lolo.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Tout va bien?
Au top. Bah, il me manque mon Rémi, mais bon, il nous a fait faux bon.
Exactement, mais tu as quand même
Je suis très bien accompagné.
Bien accompagné. Notre invité qui a été un grand gardien de but, près de 600 matchs professionnels, champion de France, finaliste de la Coupe de France avec le Racing Club de Lens, passé par Dortmund et l'AS Monaco. Il organise aujourd'hui des stages de jeunes gardiens pour former les meilleurs portiers de demain. Guillaume Varmuz est dans l'After FC. Salut Guillaume.
Bonjour messieurs, merci de m'accueillir.
Salut Guillaume.
Merci
salut
à toi d'être avec nous sur la route du nord de la France, c'est ça
exactement. J'ai fait une petite escale chez ma maman en Bourgogne et puis après l'émission je vais monter dans le nord parce que les stages débutent pendant les vacances scolaires, donc à partir de dimanche pour les 15 jours qui suivent.
On va parler de ton académie de gardien, Guillaume, de l'évolution du poste de gardien, évolution d'un poste qui est très particulier bien sûr, des différentes écoles de gardiens. On aimerait t'interroger aussi sur les deux gardiens du PSG, Safonov, Chevalier, la concurrence qui a été mise en place même si l'un a pris le dessus sur l'autre. On te demanderait également quel trio de gardiens tu emmènerais à la Coupe du Monde avec l'équipe de France si tu étais Franck Raviot, l'adjoint de Didier Deschamps. Et puis on parlera des autres gardiens français, des autres gardiens qui ont marqué ce poste si particulier. Tu le disais, donc tu pars cet après-midi en direction du nord de la France. C'est quoi le quotidien aujourd'hui de Guillaume Varmuz?
Guillaume Varmuz se consacre depuis un an maintenant particulièrement et pleinement à son académie. C'est-à-dire qu'elle est née du fait, quand j'étais avec le papa Antoine Griezmann à Mâcon, où on a monté le club jusqu'en National 2, je me suis aperçu que les gardiens qui venaient des clubs comme Bourg-en-Bresse ou Lyon, professionnels, les jeunes gardiens n'avaient peut-être pas le répondant des entraîneurs gardiens de la nécessité de ce qu'ils espéraient pour pouvoir progresser. Et donc je me suis remis sur le bord du terrain et j'ai pris un plaisir pendant 3 ans et ça m'a posé cette question, d'où la fondation de l'académie. Et donc l'idée est majeure, elle est de proposer à partir en préformation 14-16 ans, 17-19 et plus et éventuellement, de venir avec moi. Dans un premier temps, je vous propose 3 jours de vivre comme un professionnel à la Gaillette, là où j'ai fait mes grandes épopées avec le Racing Club de Lens qui m'ouvre les portes pour pouvoir me permettre de lancer mes stages.
Alors comment ça marche? Comment ça se passe si on veut participer à un stage de gardien de but, Guillaume Varmuz?
Eh bien vous allez sur le site gwsacademy.fr, vous regardez les dates, donc c'est 3 jours minimum, on est complètement immergé, c'est comme un pro, donc vous venez, je vous donne les équipements, je vous fais 6 spécifiques en 3 jours, on mange à la Gaillette, ensuite je vous fais un programme de professionnels, je regarde, c'est pas élitiste au sens où je prends que les meilleurs, pas du tout, c'est de niveau départemental, régional et national. Et nous, on vous prend, j'ai avec moi des gens de grande expérience, des gens compétents, des gens diplômés des plus hauts niveaux d'un entraîneur des gardiens de but. Et on vous prend là où vous êtes et on vous fait progresser dans les thèmes, dans tous les thèmes qu'on va aborder du gardien de but.
Ok. Et alors, tu le disais, donc il y a un encadrement de qualité. Qui sont les personnes qui t'accompagnent dans ce projet? Qui sont les entraîneurs de gardiens formateurs?
Alors, l'entraîneur de gardiens formateurs, c'est Jean-Pierre Lauricella, qui a été 30 ans formateur au Racing Club de Lens, qui arrive en fin de parcours. Et comme j'étais à Lens et puis qu'on a discuté, lui, il souhaitait rebondir. Il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et quand je lui ai proposé de venir avec moi, il a tout de suite embrayé. Et j'ai envie de dire, il est peut-être encore plus motivé que moi pour développer cette académie. Donc, c'est vraiment lui le pilier avec lequel je m'appuie. Il a une très grande expérience, notamment en préformation. Et donc, je vais le retrouver ce soir, demain. Quoi.
Question importante pour les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, comme Patakès qui nous dit sur la chaîne Twitch, c'est cool ce thème. Combien ça coûte? Ça coûte cher? Est-ce qu'on peut se faire aider? Est-ce qu'il y a des... Comment ça marche?
Alors, c'est pour, 3 jours avec moi, c'est 570 € en pension complète.
D'accord.
Donc, vous venez, vous arrivez le dimanche à 16h. On fait un premier entraînement à la Gaillette, un premier entraînement. Ensuite, on dîne à la Gaillette. J'ai un partenariat avec l'hôtel Ibis à Style à Arras. Donc, on dort là-bas. On a des réservations. Le matin à 8h30, 7h45, on a le petit déjeuner. Il y a tout le programme. On va à la Gaillette, on s'entraîne, on déjeune à la Gaillette, on vient faire la sieste. 16h entraînement et on dîne à la Gaillette. On vit pendant 3 jours avec moi en immersion complète. Vous avez vos équipements que l'on vous prête, vous avez votre survêtement, enfin vous vivez comme un professionnel avec moi.
Guillaume, on disait, enfin tu le disais, ça fait un an donc tu t'es lancé dans cette aventure et pourtant ça fait quand même beaucoup plus longtemps que tu as arrêté ta carrière. Comment ça se fait que tu aies mis aussi longtemps avant d'arriver à ce cheminement? Parce que tu as touché à beaucoup de choses, tu as été entraîneur des gardiens, notamment avec Jean-Guy Vallem à Auxerre, si je ne dis ça. Pas de bêtises. Tu as été consultant aussi chez Canal. Comment ça se fait que ça ait mis aussi longtemps à germer cette idée?
Peut-être c'est une histoire de vie personnelle, dans le sens où dans un premier temps je voulais peut-être aussi arrêter, profiter peut-être un peu de ma Bourgogne. Je suis resté un peu casanier, j'avais envie de je suis resté local, Beaune, Monceau, Mercuré, les bons vins, on en parlera après. Jean-Guy m'a demandé, j'étais à Canal aussi, donc j'ai bien beaucoup aimé le consultant d'être consultant. Jean-Guy m'a demandé d'être entraîneur à Auxerre, j'ai été entraîneur. Et puis je suis resté un petit peu comme ça, vacant, jusqu'à ce que le papa Antoine Griezmann m'appelle. Et là, vraiment, ça m'a... j'avais cette idée, quand il y a eu le Covid, dans un premier temps, j'ai lancé mes stages à Vichy, mais c'était pour faire des stages de façon globale, j'ai envie de dire des stages habituels pour une équipe normale.
Comme les stages Jean-Michel Larquet.
Jean-Michel Larquet, c'est ça, pour tout le monde, pour tous les postes. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau à cause du Covid, et donc je me suis rétracté. Et c'est avec, je reviens sur Macron, c'est avec cette histoire-là où j'ai vu la nécessité, je me suis rendu compte de la réelle nécessité. Et comme j'étais un peu gardien de but et que c'est un peu mon histoire, donc là je me suis dit bim. Donc ça a pris du temps, mais je pense que j'ai vraiment ciblé ce que je vais vraiment faire.
Tu te sens du coup plus utile pour aider les jeunes gardiens de niveau, on va dire amateur, que dans un club professionnel?
Je me sens utile dans les deux sens. Parce que je pense que l'idée, elle est venue parce que les professionnels sont redescendus, sont pas passés, donc il y en a beaucoup. Et puis elle est venue aussi de l'idée où, on parle d'Antoine qui a été loupé par les clubs français, est parti en Espagne. Les joueurs ont des possibilités. Samuel Eto'o, et Drogba, ils sont sortis comme ça. Mais les gardiens, qu'est-ce qu'on peut parce qu'ils peuvent jouer, ils peuvent s'entraîner, mais les gardiens, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme entraînement spécifique? C'est autre chose. Donc, d'abord pour le club, mais je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que pour les amateurs, je propose de l'amélioration, de la perfection, mais pour les professionnels, je peux aussi proposer de la préparation, de la continuité aussi. Donc c'est les deux. D'ailleurs, je suis en lien avec des professionnels aussi.
Et entraîner des pros, c'est quelque chose qui t'avait plu? C'est une chose à laquelle tu penses pour plus tard ou
Oui, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je me vois plus être le réalisateur du fondateur que je suis de mon académie, plutôt que... Alors évidemment, si demain, le Paris Saint-Germain, qui a tout ce qu'il faut, me dit, alors on va réfléchir, on va regarder, parce que jouer de la Ligue des Champions, préparer des garçons aussi, alors il faut aussi remettre tout dans son contexte, mais le fait de préparer, le fait de développer cette partie qui est nécessaire, j'ai envie de dire, des deux côtés, ça m'intéresse beaucoup.
Et là, peut-être que comme tu commences à partir de 14 ans, tu peux commencer sur, j'irais presque une page blanche, t'es face à des garçons qui sont tout jeunes, sur lesquels il y a presque pas tout à apprendre, mais beaucoup de choses. Tu peux les façonner plus facilement.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai des réunions là dans le nord de la France, du côté de Béthune, vers Dunkerque, qui est vers Lille aussi, avec des présidents de clubs qui se sont réunis. Je leur ai dit, moi, je suis pas un club. Par contre, ce que je peux apporter, c'est parce que ça, c'est les stages pendant les vacances. Mais il y a des gens qui me demandent aussi de faire des choses pendant la période scolaire. Donc, on va réfléchir à faire des pôles et à proposer 3 entraînements par semaine en plus avec des gens diplômés. Donc, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que des garçons passionnés, on pourra leur proposer une formation, une préformation vraiment dans un domaine très spécifique et particulier qui n'existe pas. La Fédé, évidemment, elle fait le maximum, elle donne tout ce qu'elle a pour pouvoir... Mais les gardiens, c'est quelque chose de très particulier.
Est-ce que ça marche, ton académie, Guillaume?
Ça se développe, je suis parti petit il y a un an. Et là,
petit, ça veut dire quoi?
J'avais 3-4 stagiaires. Et là, on va me retrouver les 15 jours qui viennent avec 15 stagiaires, 20 stagiaires. Donc ça a triplé, quintuplé de volume. On était parti aussi proposer service en Outre-mer, en Guadeloupe, on a été aussi, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, là-bas, ils attendent aussi une réponse, éventuellement, pourquoi pas continuer aussi. Il y a d'autres perspectives, j'ai d'autres contacts aussi, donc c'est en train de se développer plutôt bien.
Et pour les vacances d'été, ça se présente comment?
Vacances d'été aussi, ça se remplit doucement. On a des gens qui se renseignent et qui viennent un peu même de l'étranger, ça c'est surprenant, qui viennent du Canada, du Luxembourg aussi. Donc on est en train de prendre une belle petite dimension. Je suis très très heureux de ça, parce que je suis parti vraiment dans cette idée de me centraliser sur ça, et puis c'est en train de se développer. Donc l'idée, C'est l'idée majeure aussi hein, qu'il y a derrière, c'est pas de faire du tout venant, de faire de choses larges, hein, c'est d'être très précis, c'est de faire au maximum 20 stagiaires par session. C'est-à-dire que moi, c'est un cadre très précis où je m'occupe de 5 stagiaires maximum. On est vraiment dans le monde professionnel, hein, on est presque au bout. Donc avec moi, j'ai 4 entraîneurs ou 3 entraîneurs en fonction du nombre de gardiens. Donc ça aussi, il faut bien le nommer, quoi.
Est-ce qu'ils te connaissent, les jeunes, Guillaume ? Est-ce qu'ils se disent « Ah, mais lui, c'est l'ancien gardien du Racing Club de Lens, du Borussia Dortmund et de l'AS Monaco. »
Dans le Nord, oui. Au RC Lens, oui. Là, ça, je suis très étonné parce qu'en parallèle, le RC Lens organise des stages pour les petits. Donc, on mange à la Gaillette avec tout un tas de 100, 200 gamins. Et là, je vois qu'au bout de 2 jours, donc, c'est les papas qui m'ont dit « Mais à la base, c'est souvent les parents qui ont lancé les gamins qui leur ont dit regarde qui sait ce qu'il a fait. Et puis alors après, évidemment, on se découvre et voilà. Donc ça, c'est la réalité. Ouais.
Et parmi les stagiaires que tu as eu, est-ce que tu as eu des profils où tu t'es dit ouais, là, il y a vraiment quelque chose à faire, le gars est vraiment bon.
J'en ai quelques-uns et j'en ai un notamment que j'ai proposé déjà. Bon, ça n'a pas donné suite parce que bon, il n'était pas encore peut-être tout à fait prêt. Mais je me donne le droit. Alors, c'est ce que je dis aussi, hein, c'est que pour les garçons qui sont passionnés du rôle, c'est pas parce que je m'appelle Guillaume Varmuz et que j'ai 600 matchs pratiquement en pro que vous allez être pro avec moi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, en tant que professionnel, je vais vous regarder là où vous en êtes, vos qualités, vos défauts, et je vais vous proposer des entraînements pour devenir meilleur. Et les tout meilleur, à ce moment-là, peut-être qu'on verra. Mais je veux dire,
tu t'es pas fixé un objectif de dire, tiens, parmi les académiciens, mon but final, c'est d'en faire passer pro, certains.
Je m'arrête dans aucune minimalisation de l'objectif. C'est-à-dire que si demain, la session qui arrive dimanche, j'ai 5 types hors normes, je vais certainement pas leur dire, bon, bah, rentrez chez vous, tout va bien. Non, 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 on va tout de suite être au contraire. Ce sera une fierté de... On est bien d'accord, ce sera pourquoi pas une possibilité, mais ce n'est pas mon objectif majeur. Mais bien sûr que je pense qu'il y a une telle richesse que je risque un jour ou l'autre de trouver quelqu'un qui ne serait peut-être pas vu par le monde professionnel.
Et est-ce que toi, quand tu étais justement jeune gardien, il y a des gens qui t'ont marqué, justement des entraîneurs de gardiens quand tu étais à l'Ouen-Cuiseaux, à l'OM ou même après, qui t'ont permis justement de passer ce step pour t'emmener vers le monde pro?
Exactement, et c'était bien avant. C'était quand j'étais dans mon petit club de Blanzy, là, dans ma Bourgogne natale, monsieur Christian Lariep, qui a été un petit peu au monde professionnel à Nantes, à Marseille. Il a débuté, lui, il était à Monceau-les-Mines, à côté, là, en Bourgogne. Et à 27 ans, il a arrêté sa carrière parce que c'était l'époque... Je vais faire court, parce qu'on va perdre du temps, mais c'était l'époque où les parents décidaient pour les enfants. Et lui, il était dans le monde professionnel et ses parents avaient décidé... Il pouvait s'en aller dans le sud, vers Cannes, faire des essais pro. Et ses parents ont dit, non, tu dois perdurer la dynamique familiale au niveau du travail. Et donc, du coup, il était tellement frustré, il a arrêté sa carrière avec les pros à Monceau. Et il est venu dans la ville à côté, à Blanzy. Et on a vu débarquer, moi je m'entraînais une fois, j'étais comme un peu un cosmonaute, des gants, des coudières et tout ça. Il a débarqué avec une telle passion pour les jeunes à l'âge de 12 ans. Et d'un entraînement le mercredi, on a passé le lundi collectif, il est venu me chercher le mardi, j'ai commencé à faire un spécifique le mardi soir, mercredi et le vendredi la veille du match, plus le match le samedi. Si bien qu'à l'âge de 16 ans, avant de rentrer à l'INF, on a terminé champion de Bourgogne, on a battu la JOCR en finale. Il y avait Guiraud, un type avec son bonnet qui relève déjà. C'était au mois de mai sur le bord, on les a battus à zéro. Donc là, ça, ce sont des rencontres très importantes pour les jeunes et la future carrière que j'ai eue. Ouais.
Et le poste de gardien, comment ça t'est venu toi d'ailleurs? Parce que est-ce que tu te retrouves dans le parcours des jeunes que tu reçois dans ton académie là?
Oui, je veux dire, on peut y accéder par tout un tas de raisons. Moi, c'est simple, je voulais jouer au football à l'âge de 5 ans, il n'y avait pas de. Le club à Blanzy n'était pas encore monté, donc j'ai fait une année de gymnastique, ça m'a beaucoup servi au niveau de la souplesse. Et puis à l'âge de 6 ans, l'entraîneur me dit viens voir là, Guillaume, ça ne te dirait pas jouer dans le but? Il me dit t'es le plus grand, donc voilà. Bon, alors c'était pas voilà, on a pris toujours autant de buts, mais j'ai bien aimé le poste. Moi, je me suis senti bien. Et puis à la fin de l'année, il y a eu un événement, c'est qu'on menait. Et puis j'ai sorti un ballon et j'étais un peu le héros, quoi. Et là, j'ai pas compris, tout le monde est arrivé, m'a sauté dessus et tout. Mais je dis en fait, c'est génial ce poste. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est monté.
Ça a toujours été aussi génial ce poste durant ta carrière, Guillaume?
Je vais dire oui, même s'il y a des moments qui sont très douloureux et très compliqués, mais c'est un poste qui est unique, spécial, formidable. Alors évidemment, il faut que ça bascule bien à la fin, parce que sinon ça reste un traumatisme, mais malgré tout, ça reste un poste exceptionnel.
Ouais, parce que c'est le poste où effectivement on endosse ce rôle de ouais. sauveur de l'équipe, c'est ça, où on aide à gagner les matchs.
Ben c'est un poste qui est unique et c'est un poste à seule responsabilité. Tout le monde est responsable, l'attaquant est responsable, le défenseur est responsable, mais nous on a la responsabilité finale. Et si on n'est pas bon, ben derrière il y a personne pour nous sauver. Donc on peut pas faire autre chose que d'être bon. Il faut qu'on soit juste. Si on est avant, ben on est en avance. Si on est en retard, on est en retard. Il faut être, et derrière, il n'y a personne pour nous rattraper. Donc c'est un poste qui est très particulier, qui donne une dimension personnelle hein, vraiment particulière. On doit trouver des ressources pour pouvoir être prêt à toutes les situations.
Et justement, durant les stages que tu donnes donc à la Gaillette, on le rappelle avec le concours du RC Lens, oui. est-ce que tu parles autant de technique que de mental? Parce que j'ai l'impression que c'est un poste particulièrement où l'aspect psychologique est vraiment prédominant.
Il faut commencer par le mental pour moi. C'est-à-dire que être un gardien, comme je dis, c'est un métier, même si vous jouez dans un petit... Je veux dire, quand vous faites des petits matchs entre vous, c'est marrant, on se fait des passes et tout, mais quand vous jouez gardien, si vous faites ça, bah c'est pas marrant, parce qu'on prend des buts, donc au bout d'un moment, c'est plus marrant. On rentre dans un réel métier, parce qu'on a envie d'arrêter les buts, parce que donc d'abord, c'est un aspect purement mental, où il faut déjà se conditionner pour arrêter les buts en tant que tel. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, après, on a l'aspect technique qui vient, et après, on fait évoluer en fonction des capacités de chacun. Mais c'est aussi un aspect mental à accepter d'encaisser des buts sans vouloir les accepter, mais aussi à pouvoir donner le meilleur à chaque fois pour travailler et progresser.
Et comment t'as fait toi pour justement passer outre des moments difficiles? On sait qu'à Lens t'en avais eu notamment, c'est ce qui ouais. a mené à ton départ d'ailleurs, une période difficile. Comment tu fais en fait pour réussir à passer outre?
C'est une vraie bonne question. J'ai vécu un vrai traumatisme et je ne pensais pas que j'allais vivre ce genre de traumatisme. Mentalement, j'ai toujours été plutôt fort. Et le fait d'avoir quitté le RC Lens de cette manière-là, Arsène Wenger m'a pris à Arsenal et j'ai mis pratiquement 3 mois avant de m'en remettre. Et je m'en suis vraiment remis après quand j'étais à Dortmund, quand Jens Lehmann est arrivé et moi je suis parti de l'autre côté. Parce que j'ai vécu un traumatisme et cette sortie était un traumatisme avec ce que j'ai pu vivre à l'intérieur du groupe. Enfin, surtout voilà, la relation que j'ai pu avoir. Donc, au-delà de la relation, au-delà des détails et tout ça, on s'en remet. C'est vraiment une introspection sur soi-même. C'est vraiment une recherche sur soi-même. C'est trouver les ressources nécessaires. C'est avoir une force pour pouvoir se relever, se retrouver dans le but. Par exemple, je me suis reconstruit à l'entraînement. J'étais comme quand j'étais à Lens, mais dès que je me trouve en match, comme j'avais été traumatisé par le match de Porto, j'ai eu du mal à me remettre de ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap à Arsenal. Il a fallu du temps. Donc on n'est pas tous fait pareil. C'est pour ça, être gardien, c'est quelque chose de particulier, vraiment.
Tu t'es fait aider à l'époque? Excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Tu t'es fait aider à l'époque?
Non, je me suis pas fait aider. Je me suis reconstruit tout seul. Voilà, ce qui m'a beaucoup servi, c'est l'école que j'ai faite à l'INF, Vichy, où là, j'ai été formé de bonne heure un peu. C'était une école d'hommes aussi, hein, qui était assez rugueuse, assez difficile. Et malgré tout, c'est ces moments-là où j'avais une trentaine d'années, donc j'avais plus 16 ans. Hein, j'avais tout vécu. J'étais en difficulté personnelle et je me suis reconstruit avec le temps. Voilà.
Pour expliquer aux plus jeunes qui nous regardent, c'était quoi ce traumatisme, si on peut en parler?
C'était un traumatisme. J'étais en mauvaise relation avec l'entraîneur de l'époque, Joël Muller, et Michel Etor aussi. Enfin voilà, les entraîneurs, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Michel que je salue, voilà, tout ça c'est du passé. Voilà. Mais à cette période-là, c'est précis, c'était vraiment un conflit. Moi j'étais capitaine et donc ça a été très, très, très douloureux. Et donc du coup, j'ai toujours... mon idée principale, c'est que je passais toujours au-delà par mes performances sportives. Et là, j'étais mauvais à Marseille. Et là, à Porto, c'était l'apothéose parce que la situation est conflictuelle. Et puis, elle rejaillit sur le terrain. Ce n'est pas une excuse, hein, mais ça a été un traumatisme de vivre cette sortie-là. Donc, j'ai pas vu d'autres possibilités que d'abord de faire une pause. Et puis, finalement, c'était une pause définitive parce que ça ne collait plus. Et j'étais plus en accord avec ce que je pensais. Quoi.
Ouais, voilà. Parce que tu t'étais retrouvé impliqué sur des buts encaissés, c'est
oui,
ça?
Oui, des erreurs. Surtout le premier, le ballon vient, je prends le ballon et puis je mets le ballon. Il y avait Michel Hidalgo qui lui m'avait fait venir à l'OM à l'époque, qui avait dit à l'époque qu'il se demandait ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, donc j'étais vraiment dans un état où je pensais que j'allais passer au-dessus de toutes ces problématiques. Et finalement, j'ai craqué à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que le rôle du gardien, derrière on voit les performances sportives, mais il y a aussi un homme qui se cache dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe et particulier.
D'un point de vue technique, est-ce que tu dirais que le poste de gardien de but, c'est le poste qui a le plus évolué dans l'histoire du foot ?
Oui. Oui, complètement. Je l'ai vécu. Quand, autre anecdote, 1992, donc on va pas dire trop, parce que ça fait loin.
Ça va, moi j'étais né. Moi j'étais né, t'étais né toi aussi, Lolo.
Bien sûr, j'avais 7 ans.
Voilà, très bien. Et donc j'arrive à Lens, au Racing Club de Lens, et là j'arrive derrière Bernard Lamac. Bon, et changement de la règle. Donc nous on a été formés pour, quand le défenseur nous donnait le ballon au pied, on pouvait le prendre à la main dans la surface, on gagnait du temps et tout ça. Bon, et là changement de la règle au pied, de la passe au pied, donc on peut plus le prendre. Et il n'y avait pas les moyens de communication, n'étaient pas aussi importants que maintenant. Premier match, on joue contre le Standard de Liège à Bollard. Donc déjà, moi, j'étais complètement effaré. 35 000 personnes pour un match amical contre le Standard de Liège. J'ai l'impression de jouer une finale de Coupe d'Europe. Et là, c'est, je crois que c'est Eric Sicora qui me fait le ballon sur le côté droit. Là. Et là, je prends le ballon. Là, imaginez, on était dans les règles à l'ancienne. Personne n'était trop au courant. Et je dégage. Donc déjà, j'arrive derrière Bernard Lama. Donc je suis un inconnu qui arrive de Louan, même si j'avais été un peu à l'OM. Bon. Et donc, on me découvre. Et le premier ballon en retrait, je prends le ballon, je dégage au pied. Un brouhaha dans le stade, en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gardien qu'ils ont pris? Le speaker était obligé de dire, mesdames et messieurs, la nouvelle règle est mise en vigueur. Donc voilà.
Incroyable.
Exactement. Et de ce que je veux dire par là, c'est que de cette règle-là, en fait, au départ, on était un peu isolés. Elle nous a introduit carrément dans le jeu. Et ça, c'est ce qui pouvait paraître un handicap à ce moment-là, quand je raconte cette anecdote. Depuis, bah, le chemin qui a été parcouru 30 ans derrière, c'est vraiment formidable. On est rentré complètement dans le jeu.
Ouais. C'est une règle de toute façon qui a changé la nature du poste de gardien, mais aussi toute le foot en règle générale, parce que le temps de jeu effectif a bondi grâce aussi à cette règle-là.
Voilà, dans un premier temps, ça a été fait pour ça. Et au-delà de ça, ça a été, extrêmement bien développé, où le gardien maintenant est un joueur. Il y a 11 joueurs de chance, enfin 11 joueurs de football sur le terrain carrément. Donc ça, c'est un réel bien objectif pour le football.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe, parce que du coup les gardiens sont meilleurs au pied, mais est-ce qu'ils délaissent pas aussi les spécificités qui faisaient
bravo, voilà tout le débat. J'ai envie de dire il faudrait lancer, alors là on prêche un convaincu, c'est-à-dire que je pense que ça a été délaissé et qu'aujourd'hui on a moins de formation spécifique de gardien en tant que d'abord la technicité pure pour arrêter les ballons. On part du principe premier que le gardien doit d'abord être bon au pied. Je suis désolé de le dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que la problématique du gardien, elle est la même depuis le 19e siècle. Les buts n'ont pas changé et chaque type depuis 200 ans a le même problème pour arrêter les ballons. C'est arrêter les ballons. D'abord, on a tous les mêmes problèmes, d'abord. Donc c'est pas parce qu'on va demander à jouer bien au pied. J'ai envie de dire, posons la question, combien de buts vont être parfaitement lancés de derrière dans une saison et combien de ballons on va perdre dans les 20 mètres, 10 mètres en vouloir relancer et on va prendre un but, ou combien de gardiens vont vous sauver à la dernière minute par une claquette, une parade, voilà. Je pense qu'il y a une vraie relation où là, on est vraiment gardien. Le poste est objectivement d'être gardien pour empêcher le ballon de rentrer et d'être simplement un joueur de champ.
Alors justement, pour prolonger la question de Lolo, Pep Guardiola, par exemple, quand il arrive à Manchester City, il dit à Joe Hart, le gardien de l'équipe d'Angleterre, « Je compte pas sur toi, tu ne corresponds pas au standard que je recherche chez un gardien de but. Je veux un gardien qui soit le meilleur au jeu au pied. » Donc un an après, il fait venir Claudio Bravo. Ensuite, il fait venir Ederson, qui devient un des meilleurs gardiens du monde aussi, parce qu'il arrêtait quand même quelques ballons, mais surtout parce qu'il avait le meilleur jeu au pied des gardiens de but. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à Pep Guardiola du coup ? Qu'il est allé trop loin dans sa démarche ou
Je pense que c'est peut-être plus simple pour lui parce qu'il a exactement l'équipe qui peut construire devant son gardien de but. Pas tout le monde a cette chance de pouvoir prendre les joueurs meilleurs en tant que défenseur, milieu et attaquant. Quand on a des joueurs qu'on ne peut pas tous être, et ça c'est une minime partie des meilleures équipes qui peuvent avoir les meilleurs. S'ils décident d'avoir ça... J'ai rien à dire sur Pep Guardiola. Qu'est-ce que je peux dire, j'ai envie de dire. Par contre, la réalité, c'est qu'à un moment donné, si ces gardiens, on le voit, si les gardiens sont en difficulté dans le poste de gardien de but, nécessairement, votre équipe va être en doute. Ça, j'ai pas besoin d'avoir fait des... C'est nécessaire. Il a fait ses choix, et c'est Pep Guardiola, et moi, j'ai rien à dire sur ça. Par contre, là, je pense que dans une majorité objective, si on n'a pas un bon gardien qui est capable de faire des arrêts décisifs, prenons le cas de Donnarumma, à Paris. Il a joué 3 ans au PSG, il a été bon 3 mois. Et 3 mois exceptionnels, et le PSG était champion d'Europe. C'est pas son jeu au pied qui a fait que Paris était champion d'Europe.
Et Guardiola l'a pris. Pourquoi ? Non, mais, t'as été surpris d'ailleurs de voir que...
Mais complètement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, peut-être que lui a rectifié l'idée majeure que le jeu au pied ne vous amène pas des titres. Donc, je pense que ça, c'est une constante, c'est un absolu, c'est notre boulot d'arrêter les buts. Donc, c'est pas de qu'on soit rentré dans le jeu, là, je suis d'accord, et ça, c'est un vrai bien objectif pour le gardien et pour le football. Mais il n'en reste pas moins que... On doit s'entraîner pour arrêter les ballons.
Question de Patakès dans le chat. C'est vraiment dommage et frustrant qu'aujourd'hui, si tu fais pas un minimum 1m90, on te regarde même pas. Jérémy Janot, par exemple, n'aurait jamais eu sa chance de nos jours. Qu'est-ce que tu penses, pareil, de cette autre mode des gardiens qui doivent mesurer au minimum 1m90?
Alors, prenons ce raisonnement à l'envers. Prenons Fabien Barthez, avec qui j'étais en équipe de France Espoir, que je connais très bien, et moi-même. Fabien 82 ou 83, et moi 87. Alors,
1,87.
Voilà, 1,87. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas être champion du monde. Et moi, je n'aurais pas pu jouer 600 matchs en pro. Je n'aurais pas pu devenir le premier gardien à gagner à Wembley. Je n'aurais pas pu être champion, le premier champion avec Lens. Qui est des minima, si on est plutôt de petite taille, très petit. C'est un fait. On voit bien que ce sera difficile d'aller toucher la barre. Si on mesure 2m20, donc prenons des caricatures extrêmes. Mais entre tout ça, évidemment, je dis 80, voilà, on prend 82, 83, 85, l'idéal jusqu'à 96, 2m. Bon, ok, voilà. Et pourquoi fixer et 1,90 ? Ça n'a pas de sens. C'est la qualité intrinsèque, la personnalité, la capacité à réaliser pendant le match. Voilà qui est le gardien. Voilà qui est la personne qui doit se définir. Pas la taille.
Il y avait Jorge Campos, hein, d'ailleurs, le gardien mexicain, qui était
pas bien grand
et qui était plutôt bon. Hein.
Voilà.
Et Guillaume, pour rester sur Patakès, il dit c'est comme la proportion grandissante des gardiens à repousser les ballons plutôt que de les attraper avec les mains, peut-être à cause de l'évolution des ballons. Qu'est-ce que tu en...
Non, c'est l'évolution de l'entraînement où on voit les gardiens être comme des gardiens de repoussoir au lieu de travailler sur un temps long. Et c'est ce que j'explique à mes gardiens. Quelle est la différence entre faire une parade et un arrêt ? Un arrêt, le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous prenez le ballon, vous avez 7 milliards de téléspectateurs qui vous regardent. L'action est terminée, c'est fini. Le ballon est là. Donc, plus tôt on apprend à prendre les ballons correctement, moins le jeu est relancé. Voilà, c'est tout simple. Donc, de repousser les gardiens, c'est très bien, il faut avoir des réflexes. Mais ce n'est pas la technique première du gardien.
Dans la mesure du possible, tu conseilles donc, dans les stages que tu organises dans l'Académie Guillaume Varmuze, de capter le ballon plutôt que de le repousser.
Si on prend déjà la première option d'attraper le ballon, on arrête l'action. Mais si l'option, elle est de dévier, il faut la dévier. Ça, c'est l'action qui vous dit exactement ce que vous devez faire. Mais je pense que dans un premier temps, le plus on apprend à capter les balles et le moins les actions sont remises en jeu. J'ai rien inventé.
Parce qu'il y a un gardien de ta génération, Andreas Köpke, quand il signe à l'OM, on est tous surpris de le voir boxer tous les ballons. On a appelé ça l'école allemande. Qu'est-ce que t'en pensais ?
Complètement, les Allemands, par exemple, l'école française, nous, on a travaillé beaucoup sur la technicité, sur tout ce qui est, on va dire, l'analytique. Quand j'étais en Allemagne, on travaille sur la force, c'est le duel. Donc, de prendre le ballon, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être en force et de gagner son duel, de le remporter. Donc, d'où les points, d'où les croix, d'où voilà. Et chacun son style, j'ai envie de dire. C'est pas le sujet. Je pense que nous avons en France la meilleure école du monde et donc il ne faut pas la galvauder. Avec, quand je dis nous, les pays comme l'Espagne, l'Italie aussi forment de très très bons gardiens et je pense qu'il faut garder notre identité.
Guillaume, on parle de la solitude du gardien, mais forcément en face, devant toi, t'as ta défense quand même. Ça, c'est quelle importance ça représente, le relationnel entre tes défenseurs et toi en tant que gardien. On avait Philippe Sade qui nous avait expliqué, notamment quand il était à Lorient, qu'il avait des problèmes de communication avec son gardien, que du coup, ça créait des frictions entre guillemets par rapport à la fluidité, tu vois, du jeu. Toi, quel était ton rapport avec tes défenseurs à l'époque ?
J'étais assez pénible. Dans le bon sens du terme, d'ailleurs, c'est souvent une rhétorique constante, c'est que j'ai pas l'air content souvent sur les actions. Moi, je partais du principe que je reprenais les joueurs dans le sens reprendre quand il n'y avait pas eu but, dans le sens dire ben voilà, ça n'a pas été, voilà, j'étais pas très heureux, je replaçais tout le monde un petit peu. Le but, il est là, ben tout le monde, ça sert à rien d'aller au-delà et d'être virulent quand le but est encaissé. Ça, c'est pour parler des deux options, quand il y a but et il n'y a pas but. Mais moi, je pense que je ne saurais pas donner le pourcentage, mais c'est primordial. La relation gardien-défenseur, c'est primordial. Pendant les 10 années où j'étais à Lens, on a joué, même après quand j'étais à Monaco, on a joué régulièrement dans les 5 meilleures défenses du championnat. C'est ce qui nous a amené au titre, pas que parce qu'on avait une super attaque, mais tout ce qu'on a construit, c'est parce que d'abord, on avait une ambiance défensive avec la relation avec mes défenseurs. On était rodés, il y avait un rouage, il y avait une exactitude, il y avait des placements qui étaient très précis. Et là, c'est tout le relationnel d'être en osmose avec sa défense.
Ouais, et avec Eric Sicora, Jean-Guy Wallem, tu as dû passer plus de matchs avec eux et de jours avec eux qu'avec ta femme, non?
C'est ça, exactement. Exactement. D'ailleurs, bon, ben voilà, d'ailleurs, à la force, on a tellement été ensemble qu'on a divorcé parce que c'est trop long.
Évidemment, puisque vous jouiez tout le temps ensemble. On a parlé de 1992, l'interdiction de la passe en retrait. Ouais. Il y a eu d'autres évolutions depuis pour le rôle de gardien. Peut-être que j'en ai oublié, mais j'ai noté 2023 sur penalty, l'interdiction d'avancer les deux pieds devant la ligne au moment du tir de l'adversaire et l'interdiction de déstabiliser le tireur. Qu'est-ce que tu avais pensé de cette évolution-là? Parce que maintenant, on rappelle
ça a pénalisé les gardiens, mais j'ai pas la statistique au niveau des ratios de buts. Ça doit être toujours pareil. Il y a toujours autant, c'est à peu près trois quarts de buts marqués. Hein, ça a pas beaucoup bougé. On était un petit peu déstabilisé par rapport à ça, un peu pénalisé, mais en même temps, quelquefois j'ai arrêté quelques pénalties. Quand je regarde bien, j'étais 1m50, 2m devant. Donc évidemment, ça pouvait. C'est plutôt une bonne règle, une règle juste, on va dire. Il n'en reste pas moins que les gardiens sont très brillants. Donc c'est plutôt, ça nous a pénalisé. On aurait pu en arrêter plus, mais bon, c'est le but du foot, c'est de marquer des buts. Donc c'est plutôt pas mal.
Bon, et cette règle d'interdire aux gardiens de garder le ballon en main plus de 8 secondes désormais, sous peine de donner un corner par exemple à l'équipe adverse.
C'est bien aussi, parce que bon, on a vu, j'étais une génération où on faisait des passes en retrait, on donnait le ballon, on passait en retrait, on avait les plus petits ratios de but, donc une fois qu'on avait gagné 1-0, on attendait que la montre tourne. C'est bien, tout ce qui est pour valoriser l'objectivité du football, qui est de marquer, de voir du spectacle et voilà, des belles choses, c'est bien. Il ne faut pas que les gardiens en gardent le ballon trop longtemps.
Bon, et on parle également d'une possible interdiction de retirer un pénalty ou un tir au but manqué par le tireur. Tu sais qu'aujourd'hui, on donne la possibilité de retirer, notamment quand le ballon touche le poteau ou parfois parce que le gardien s'est trop avancé. L'impossibilité de retirer, ce serait bien aussi pour les gardiens, ça?
Je sais pas, en fait. Il faut voir l'objectivité de chaque action en cas particulier. Par exemple, l'attaquant rentre dans la surface et le mec a pas tiré, le gardien repousse et qu'il la met au fond, si on ne doit pas retirer, il faut se poser la question de tous les cas, en fait. Voilà. Donc moi, je reste prudent. Ça, c'est plutôt bien fait. Je pense que les gardiens sur leur ligne, ça, c'est bien. Ils sont bons, donc ils en arrêtent. Après, s'il tape le poteau, le mec est déjà rentré, tout ça, là, je dirais pas que l'universel. Moi, j'ai toujours l'univers. Alors, il y a des universels objectifs, mais que 100%, on voit avec la VAR. Hein, donc, on devait régler tous les problèmes, on n'en a réglé aucun. Donc, non, je pense que c'est vraiment un cas particulier.
Alors, on a parlé de l'évolution du poste. On voulait te montrer des photos de grands gardiens du passé. On va parler des gardiens du présent dans quelques minutes. Mais je voudrais que tu nous dises un petit mot, par exemple, si on te montre cette photo-là, la photo de Lev Yashin, par exemple, le seul gardien ballon d'or, 63. C'était en 1963. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de Lev Yashin?
Lev Yashin, c'est celui qui introduit le football moderne au sens où une prestance... Il aurait mérité d'avoir plus de titres, mais c'est comme ça. Il a vécu dans une époque qui était la sienne. Par contre, c'est quelqu'un dont on a parlé parce qu'on lui a donné le ballon d'or et que c'était quelqu'un d'assez impressionnant. Et que c'était quelqu'un qui a dû arrêter, je crois, plus de 100 pénaltys ou je sais plus dans sa carrière. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des hommes fondateurs. C'est des hommes fondateurs pour le poste de gardien de but. Donc, on se doit les gardiens, on doit respecter les gens qui nous ont précédés dans ce sens-là, parce que lui, il est ballon d'or. Alors, il y en a d'autres qui auraient pu l'avoir, qui ne l'ont pas eu, mais lui, au moins, il a montré la voie de ce qu'était le gardien.
Anomalie, d'ailleurs, peut-être, qu'il n'y ait qu'un seul gardien ballon d'or dans l'histoire.
Mais carrément. Alors, il y en a un qui est évident, qui, pour moi, aurait dû l'avoir en 2006. C'est Gigi Buffon. Ouais. Enfin, Cannavaro, tout le monde, l'Italie mérite, j'ai envie de dire, les défenseurs, mais... Quand même, je veux dire, c'est quand même anormal que lui, à ce moment-là, je veux dire, il a quand même maintenu l'Italie à flot et il aurait largement mérité d'avoir le ballon d'or.
Autre gardien italien d'ailleurs mythique, Dino Zoff. Ça te parle, Dino Zoff?
Dino Zoff, 82 champion du monde à 40 ans. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui était beaucoup suivi. J'ai suivi sa carrière. Moi, j'étais jeune gardien. Ça m'a posé question quand je l'ai vu jouer à 40 ans avec un calme, une tranquillité pratiquement. Bon, je veux pas dire ça parce qu'il devait fumer sa cigarette dans la semaine. il était vraiment tranquille, vraiment super. Donc, Dinosov, en plus pour jouer à la Juve. Donc tout était. C'est quelqu'un qui, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai trouvé très calme. Ça m'a marqué. Son calme m'a marqué.
Champion du monde. Eliane, notre chef d'édition, est très très branché gardien. Elle nous a préparé d'autres photos. Elle nous a mis Michel Preud'homme.
Preud'homme, gardien atypique, les Belges, oui, ils ont fait troisième en Coupe du Monde, si mes souvenirs sont bons.
86.
Voilà, atypique, un peu fantasque, Michel Preud'homme. Un peu de gardien de personnalité, avec ses cheveux longs, il sortait, il avait à un moment donné même des gants jaunes, des gants un peu trop grands. Enfin voilà, c'est des personnages atypiques qui ont marqué le football et c'est bien. Et s'il jouait, c'est parce qu'aussi il était efficace et il a fait aussi une carrière en étant international. National belge.
Un gardien champion du monde avec l'Allemagne, Sepp Maier, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern également.
Sepp Maier, exactement, mais au-delà de ça, Sepp Maier, c'est le gardien d'un seul club. Hein. Il a plus de 600 matchs, plus de 100 sélections. Et lui, il a révolutionné le football moderne. J'ai envie de vous poser la question, savez-vous pourquoi? Mais dans notre matériel, il a été le premier dans les années 70 à confectionner les premiers gants en latex. C'est lui en Allemagne, Adidas, et c'est lui qui a révolutionné la matière du gant. Ça vient de lui, au-delà du fait que ce soit un énorme gardien de but, champion du monde, qui a tout gagné. Il a joué qu'au Bayern. Donc,
ils sont comment les gants aujourd'hui, Guillaume?
C'est formidable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre, on a l'impression que vous n'avez pas de gants, vous avez des gants plus larges et tout. Non, c'est formidable tout ce qui se passe au niveau de la matière.
C'est mieux qu'avant pour le coup.
Mieux qu'avant. Oui, forcément l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a plus de choix. Voilà. Là, ça a évolué. Moi, j'ai eu la chance de connaître déjà des gants qui étaient vraiment très très bien faits. Mais maintenant, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc, c'est encore mieux.
On l'a montré tout à l'heure, mais on va te remontrer la photo de Jorge Campos, le petit gardien mexicain qui sortait ballon au pied à la Pascal Olmeta.
Voilà, Campos, il était vraiment pas très grand. Hein, et il avait ses couleurs complètement... original de son pays Amérique du Sud, et il était très dynamique, il avait une vraie personnalité, donc ça c'est vraiment aussi il y a de la place pour tous les gardiens qui veulent s'imposer, j'ai envie de dire qui ont un niveau pour pouvoir jouer au niveau. Le vrai niveau, c'est le niveau international, donc s'ils sont là, il n'y a pas de hasard.
René Higuita,
faire ce qu'il a fait à Wembley. C'est pas celle-là, parce que ça c'était un match amical, j'en sais rien, mais à Wembley, faire ce qu'il a fait en équipe d'Angleterre, si on écoute les commentaires en anglais, les Anglais avalent leur micro, hein, les mecs sur place. Hein.
Le coup du scorpion
contre l'équipe d'Angleterre à Wembley, ça c'est. Et il l'aurait réussi, parce qu'il aurait pu le rater. Hein. Voilà, des gardiens de personnalité. Alors après. Si j'étais entraîneur, peut-être que...
Ouais, tu peux vriller.
Tu l'as jamais fait ?
Non. Si vous venez à la GWS, on fait pas ça. Hein.
On le conseille pas non plus ?
Non plus.
Buffon, on en a déjà parlé. Ouais. Fabien Barthez, as déjà évoqué un tout petit mot également, ouais. Puisque tu étais en équipe de France Espoir avec lui. Quelle trace il laisse dans le foot français et qu'est-ce que tu penses de sa carrière ?
Fabien, il a fait une carrière exceptionnelle. Il est arrivé, il n'était pas destiné d'être gardien au départ, il était rugbyman, il a débarqué, moi j'étais en équipe de France Espagne, débarqué, il a commencé à jouer, boum boum boum, il est allé à l'OM, champion d'Europe, il a pris les gants, il les a oubliés, il a tout arrêté, il a battu Ronaldo, voilà, que dire de Fabien, c'est une personnalité, c'est un grand gardien, c'est le premier qui nous amène le titre de champion du monde, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a plus rien à dire.
La Coupe du Monde 98, il la gagne avec l'équipe de France, avec Bernard Lama et Lionel Charbonnier. Tu étais dans la discussion pour cette Coupe du Monde 98. Ouais. Quel souvenir ça t'évoque encore aujourd'hui, cette Coupe du Monde 98?
Si on se pose la question dans l'autre sens, combien de gardiens ne sont pas en équipe nationale quand ils sont champions de France?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus. Peu, peut-être. Donc, voilà. Ça reste une question, pas un regret. Parce que le sujet, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux en étant champion ?
Compliqué.
Voilà. Après, il y avait aussi peut-être, on peut mettre derrière ça, le fait que peut-être entre Fabien et Bernard, ça allait être compliqué puisque Bernard allait être Fabien allait jouer et que Bernard en 96 c'est lui qui jouait. Et puis derrière, peut-être, si j'étais arrivé peut-être numéro 1 aussi, enfin, je sais pas, il faut poser des questions. Voilà, toujours est-il qu'il n'y a pas de discussion possible puisque tout le monde est champion du monde. Donc voilà. Mais d'un point de vue personnel, c'est une énigme aussi, de ce sens-là. On pourrait. Mais c'est comme ça. Je veux dire.
Tu n'en as jamais parlé avec Philippe Bergerot, l'entraîneur des gardiens de l'époque, avec Aimé Jacquet, le sélectionneur ?
Non, pour dire, ils font des choix. Quand on est entraîneur, pour être entraîneur, on fait des choix. Et puis à l'arrivée, quand on est champion du monde, qu'est-ce qu'on va revendiquer ? Il n'y a rien à dire. Simplement, peut-être que j'aurais pu aussi y être aussi. Si j'y avais été, ça n'aurait pas été galvaudé non plus.
On est d'accord. Une photo d'Hugo Lloris, tiens.
Hugo.
Record de sélection pour un gardien français.
Chapeau. Hugo Lloris, c'est quelqu'un de très humble. Sa personnalité humble fait qu'on parle peut-être moins de lui dans un certain domaine, mais par contre, il en impose. Moi, je l'ai vu débuter quand j'ai terminé ma carrière à Monaco. Il est venu gagner en demi-finale de Coupe de la Ligue. Il a tout sorti. On avait une attaque. Il y avait Vieri, Di Vaio. Il a tout sorti. Je dis, mais qui c'est ce phénomène ? Et puis d'ailleurs, il a été champion du monde et il a fait une très grande carrière. C'est le gardien qui a le plus de sélections et qui marque l'histoire des gardiens de but français.
Mais tu mets qui devant, alors Barthez ou Lloris en numéro 1 ?
Moi, je mets Fabien.
Oui.
Parce que voilà, Fabien, c'est le premier qui est champion du monde. Et puis Hugo, c'est histoire de mettre un classement, quoi. Voilà. Bon, Fabien, c'est lui qui ouvre la voie. Donc voilà.
Alors parlons des gardiens du moment. Lolo, on a décidé de comparer évidemment Matvei Safonov et Lucas Chevalier, qui sont les. Oui, il fait chaud effectivement dans ce studio. C'est le beau temps, c'est l'été qui est en avance. Ouais. Ça a été un petit peu la question de la saison. Donnarumma est parti, Chevalier est arrivé, d'abord comme titulaire, désormais comme remplaçant. Si on regarde les stats, d'abord Lolo, ça donne quoi en Ligue 1 peut-être pour commencer ?
C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'il y en a un qui mène la danse dans une compétition. Et l'autre qui mène la danse dans l'autre. Si on regarde la Ligue 1, effectivement, Lucas Chevalier est devant. Il a été titularisé plus souvent. Il encaisse moins de buts par match, même si, attention, les chiffres sont très proches. On est autour d'un but encaissé par match, ce qui est très peu. Pourcentage d'arrêt, 72% pour Chevalier et 64% en faveur du Russe. Pareil, les buts évités par rapport aux expected goals sont très semblables. Donc, on va dire, si on prend la Ligue 1, avantage Lucas Chevalier. Par contre, si on prend la Ligue des Champions, c'est là on voit que Safonov est légèrement devant. 7 titularisations pour lui, 6 pour Lucas Chevalier. Et là, pour le coup, il y a un vrai delta entre les deux. Il y a deux fois moins de buts encaissés pour Safonov, quasiment deux fois plus en pourcentage de tirs arrêtés. Et pareil en buts évités. Donc, il y a vraiment une compétition, chacun sa compétition. Moi, la question que je voulais te poser, Guillaume, c'est on voit bien qu'il n'y a pas de numéro 1 défini. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation en tant qu'ancien gardien, comment on fait pour gérer ça ?
C'est très compliqué parce que faut partir. Moi, je prendrais les choses à l'envers, de l'autre côté. Je pense que Lucas Chevalier est un gardien de niveau international qui a le plus de qualité intrinsèque entre les deux. Il n'y a pas photo. Le sujet, c'est qu'il n'a pas exprimé ce qu'il est réellement en tant que gardien de niveau international parce qu'il y a un delta entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, si on veut aider Lucas Chevalier à être un gardien de niveau international, il faut qu'il retrouve son statut de ce niveau-là. Donc c'est confirmé à travers toutes les statistiques que tu viens de dire. Et aujourd'hui, Luis Enrique, je ne veux rien lui apprendre. Il a trouvé la formule. Force est de constater que Safonov, hier, il a des gestes. Comme on a parlé des gardiens qui sont particuliers, il a des gestes qui sont particuliers, j'aurais pas fait certains gestes, mais il est efficace, et tu viens de le souligner, donc il n'y a rien à dire, l'équipe gagne 2-0 et prennent pas de but. Donc voilà. Donc il faut trouver la solution. Ce qui nous intéresse, j'ai envie de dire ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir comment Lucas Chevalier va continuer sa progression. Parce qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Et pour moi, techniquement, c'est un des tout meilleurs gardiens français. Voilà le réel sujet. Safonov, il va plus rien apprendre techniquement. Lucas Chevalier, techniquement, est au-dessus et il n'arrive pas à exprimer tout son potentiel. Donc c'est ça le vrai sujet.
Après la victoire du PSG face à Toulouse le week-end dernier et l'erreur de Safonov, l'erreur de la lecture de la trajectoire, il se fait lober sur une balle en profondeur. Derrière, ça engendre un corner et sur le corner, il relâche la balle qui entraîne le but du TFC. Comment il a vécu ce début de débat relancé, ses critiques en tout cas. Il en a parlé en français, lui le russe, hier soir en zone mixte, en zone d'interview après le match de Ligue des Champions PSG-Liverpool.
Explique-moi pourquoi je dois avoir le stress ou quelque chose.
Pour moi, personne n'a dit rien en face, mais les autres, je n'ai pas regardé les nouvelles, les papiers, je ne sais pas, rien. Si ça a été un peu de critique, c'est normal parce que PSG, c'est une grande équipe où beaucoup de supporters et tout le monde essaie de donner toute l'énergie pour l'équipe. Et si tu fais quelques fautes, c'est vrai qu'il y a les supporters et le monde qui va être pas content avec ça. Mais pour moi, c'est normal.
Déjà, c'est beau parce qu'il parle français, Matvei Safonov.
La première chose que j'allais dire, ça, c'est beau de le souligner. Ça, c'est déjà respect, M. Safonov, de parler français. Voilà.
Et ensuite, sur la gestion de l'environnement, des critiques, des polémiques, comment on fait quand on est gardien de but pour se préserver quelque part de cet environnement qui peut parfois être nocif, parce que des polémiques sur les gardiens, il y en a quasiment tous les week-ends.
Je pense que ce qui est important, c'est le staff. Il faut comprendre que c'est une caste particulière, c'est-à-dire qu'on est objectivement dans un club et il faut aider l'autre tout en voulant prendre sa place. C'est très compliqué. Donc, il faut jouer ça à la régulière. J'ai connu des moments où c'est très difficile de jouer à la régulière. On a plutôt envie de s'écharper et de se battre. Mais malgré tout, l'intérêt premier, c'est celui du club. Donc là, qu'on soit critiqué, là, c'est purement objectif. Et il le dit, puisqu'il joue à Paris Saint-Germain. Donc, et on ne peut pas dire que ce qu'il a réalisé, ça ne manquait pas de critique. Hein, donc, et c'était pas logique, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est construire le match d'après pour pouvoir se relever des erreurs qu'on a pu commettre. Et surtout à Paris. Et là, c'est le staff et c'est l'ambiance qui fait la différence.
Est-ce que tu as connu des situations, toi, dans ta carrière, où tu étais en compétition avec un autre gardien, où tu n'étais pas assuré de la place de numéro 1? Et comment ça s'était passé? Et est-ce que, selon toi, il faut qu'il y ait absolument un numéro 1?
Alors, d'abord, oui. Et c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est que quand je suis arrivé à Dortmund, le transfert s'est fait à début de la semaine de la première journée. On jouait le derby Schalke et c'est Roman Weidenfeller, le gardien historique du Borussia, qui a joué les 6 premiers mois. Et moi, j'ai dit, j'arrive en fin de carrière, je vais aller voir Mathias Sammer, l'entraîneur. J'ai dit, si c'est pour être remplaçant, moi, je ne viens pas être remplaçant. Donc, il a mis une concurrence et j'ai piqué la place à Roman à la régulière par mon travail et par mes performances. Donc ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Et dans ce sens-là, la concurrence est bonne et saine. Mais il faut pour moi imposer un numéro 1. Il faut dire au numéro 1. Alors c'est compliqué parce que maintenant, il y a beaucoup de matchs. Peut-être que je dis ça parce que ma génération aura peut-être un peu moins de matchs. Mais pour moi, je pense que le numéro 1, il faut tout faire pour qu'il soit numéro 1. En disant numéro 2, on va objectivement tout faire pour qu'il puisse lui prendre sa place et être le meilleur quand il doit jouer. Mais je crois que c'est pas mal de définir les rôles au départ. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, hein. Mais je pense qu'il faut nommer comme ça. Et après, il faut que ce soit sain, tout ça. Parce que si on dit au numéro 1 qu'il est numéro 1 et que derrière, il ne se remet jamais en question, ce n'est pas bon. Et puis si on ne définit rien, on ne sait pas, c'est flou. Donc voilà, c'est la réalité, c'est le réel des matchs qui s'imposent.
Ouais. Parlons de l'équipe de France, Lolo, avec la liste de Deschamps. On sait qu'a priori, il va partir en équipe de France avec Maignan, avec Samba et avec peut-être Lucas Chevalier. On a parlé également d'Alphonse Areola, peut-être même Jean Buté, le gardien de Côme. On en a choisi 4 qu'on a choisi de comparer. Et Guillaume, tu vas nous dire, toi, quels sont les 3 que tu emmènes à la Coupe du Monde?
Sur les 4, déjà, il y en a un qui se dégage, mais c'est assez logique, hein, c'est le numéro 1, c'est Mike Maignan qui réalise une saison exceptionnelle, et je mets bien en gras, hein, exceptionnelle, avec l'AC Milan. Il est titulaire indiscutable. Il a évité 11 buts à son équipe. Donc par rapport à la qualité des tirs subis, c'est énorme. C'est le meilleur total en Italie, 78% de tirs arrêtés. C'est tout simplement incroyable comme stat. Et puis après, derrière, donc on a Lucas Chevalier qu'on a évoqué avec Guillaume, qui lui vit une saison en demi-teinte, mais pour les raisons aussi évoquées par Guillaume, c'est-à-dire sa première saison dans un environnement comme le Paris Saint-Germain, avec des stats tout à fait honorables quand même, 72% de tirs arrêtés. Derrière, Robin Risser, qui lui est dans la même dynamique que son club, le Racing Club de Lens, avec 73% de tirs arrêtés et 8 buts évités, ce qui explique là aussi, hein, le rôle du gardien. C'est une statistique qui met en valeur la qualité du gardien. Et Brice Samba, qui lui, un peu à l'image de son club, est aussi un peu en difficulté, même s'il est titulaire, il connaît une saison plus difficile, notamment en termes d'efficacité.
Alors, tu prends qui, tu emmènes qui et quelle hiérarchie tu mets en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, Guillaume ?
Très simplement, je prends Mike Maignan, qui pour moi, je mets dans le top 5 mondial au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il joue en équipe de France, il est potentiellement capable de nous, nous ramener la Coupe du Monde. Il s'est imposé au Milan dès la première année, donc il a une qualité intrinsèque qui pour moi est sans discussion possible. C'est le numéro 1 de l'équipe de France. Le 2, je prends Lucas Chevalier, parce qu'il a une certaine expérience déjà de la Coupe d'Europe, qu'il a pu jouer avec Lille, avec Paris. Il est en train de vivre une saison très très difficile. Donc ça, c'est aussi une belle expérience quand on vit des moments délicats. Donc ça aussi, dans un groupe, de partager ça, ça peut aussi lui donner une renaissance. Et le troisième, je mènerai un peu de fraîcheur, Robin Risser, que je connais aussi plutôt bien, parce que je le connais bien. Robin, c'est quelqu'un qui l'année dernière, il y a 2 ans, avait 15 matchs avec le Red Star et qui est en train de faire une saison exceptionnelle avec le RC Lens, qui est en train de s'imposer, il a 20 ans. Donc il est en train de prendre une belle dimension. Donc un petit peu de fraîcheur et de découverte aussi pour lui donner de l'expérience dans son futur. Voilà les 3 gardiens que j'emmènerai.
C'est marrant parce que quand Franck Raviot, donc qui entraîne les gardiens de l'équipe de France, s'est déplacé pour superviser les gardiens ces dernières semaines, à chaque fois, quand il est allé voir Risser à Lens, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour lui. Il est allé à San Siro pour un Milan-Côme et pour Maignan et pour Butet, ça ne s'est pas très bien passé non plus.
D'ailleurs, quand il est venu à Lens, j'ai dit il était là, j'étais, c'était pas vrai, Franck, que je connais très bien aussi, qui était avec moi au RC Lens quand il a débuté sa carrière. Ah oui. Oui, et puis en plus, il est natif. Aussi, bon, je fais de la pub, mais puis en même temps natif bourguignon comme moi-même, donc on se connaît. Et l'académie a été aussi lancée en rapport, en discussion avec lui pour. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que. Il impressionne, il est champion du monde et quand il vient, les gardiens tremblent un peu. Donc voilà.
Ton top 5 monde, alors tu inclus, tu as dit Mike Maignan, qui ouais. Tu as mis d'autres dans ton top 5 monde, on va voir ça tout de suite en image. Je crois qu'il y a un nom qui a fait tiquer Lolo.
Oh, mais non.
Martinez.
Mais bien sûr, mais
ouais,
Guillaume,
je sais, je voulais je vais te dire pourquoi. Pour moi, Alisson, Becker, c'est celui qui est techniquement ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime, sa finesse, sa grandeur, sa qualité technique, sa souplesse. Et c'est un gardien, il a été élu meilleur gardien du monde. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, je le mets numéro 1.
Il combine, selon toi, ce ouais. que tu disais, c'est-à-dire très bon sur sa ligne, un vrai gardien pur, plus ouais. le jeu au pied. Il a le combo, lui.
Pour moi, il est vraiment le combo, c'est-à-dire qu'il est très fluide. Il est très très bon dans la lecture des trajectoires. Il peut aller chercher des ballons vite au sol. Il est capable de faire une croix à 1 mètre. Il est capable de mettre un ballon au pied à 50 mètres. Donc pour moi, il est vraiment une finesse et une dextérité. Je le mets numéro 1. Ouais. Ouais.
Numéro 2, tu as mis Thibaut Courtois.
Ouais, Courtois. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, messieurs, dames, mais faire ce qu'il fait au Real Madrid, c'est purement exceptionnel. Il aurait peut-être pu être numéro 1, on aurait peut-être pu changer, mais bon, c'est le puriste qui parle. Je veux dire, vous pouvez le mettre à 19 ans, il fait la même chose au Real, à 25 ans, il fait pareil, à 35 ans, il fait pareil, à 53 ans, il fera encore pareil, il sera décisif. Ce mec est phénoménal avec le Real Madrid, donc il est numéro 2 sans problème.
Bon, tu as mis Donnarumma en numéro 3 ?
Donnarumma, je l'ai mis en numéro 3, pourquoi ? Parce que il a 25 ans, c'est ça ?
27,
qui est champion d'Europe avec l'Italie à 20 et quelques années, et champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Donc ça mérite aussi le respect. Il joue à Manchester City, donc je pense que...
Oui, mais il ne joue pas la Coupe du Monde.
Il joue pas la Coupe du Monde, mais on parle des meilleurs gardiens au monde. Il a été champion d'Europe et puis il a ramené une Ligue des Champions à son jeune âge, parce que la Ligue des Champions, ne l'oublions pas, il est allé la chercher. Et son match qui l'a déterminé, c'est la Liverpool, quand il commence à sortir dans les ballons aériens et à la fin, il arrête les pénaltys. Mais après, il a tout sorti jusqu'à la finale. Donc je pense que là, il mérite de faire partir des 3 mondiaux.
Comment on fait pour le faire progresser dans son jeu au pied ?
Il faut demander à Pep
et à son entraîneur de gardien. Alors Dibou Martinez, pourquoi Dibou Martinez dans ce top 5? C'est quand même surprenant, non?
Je le mets non pas par ses qualités de gardien, mais pour sa personnalité. C'est-à-dire que en fait, c'est un mec qui est détestable, qui est pas du tout dans l'académie dans laquelle j'en veux pas, en fait. Presque, je crois que je l'aurais viré, je pense. Par contre, il a amené l'Argentine championne du monde. Et puis, son style impressionne, impose, même si techniquement, il a certaines limites. Donc là, je parle d'une personnalité. d'une personnalité. Je suis pas en train de valoriser la détestabilité, c'est pas ce que je dis. Je dis que lui a réussi à trouver une formule qui lui appartient et qui fait déjouer les adversaires. Voilà, ce que, voilà pourquoi il est arrivé. Je le mets là parce que il remporte le titre de champion du monde qu'on aurait dû avoir. Voilà. Et donc rien que pour ça, il est là.
Ouais. Il y a d'autres gardiens qui ont ce profil-là, qui arrivent à compenser des lacunes techniques par justement une personnalité exacerbée par...
Tous ceux qu'on a vus un petit peu avant, alors il y en a d'autres, hein. Il y a tous ceux qu'on a vus avant, là, des plus anciens. Je pense que être gardien, c'est pas simplement de la technique pure de ce qu'on a vu de Alisson et de ce que je préfère. C'est pas que ça, c'est aussi prendre en considération toutes les options, que ce soit des personnalités, de la technicité ou de la force, ou enfin tout un tas de paramètres, quoi.
Alors moi, il y a un problème, Guillaume, c'est que dans ton top 5, tu n'as pas mis Manuel Neuer. Donc
Mais Manuel Neuer, je l'ai pas mis dans le top 5 parce que Manuel Neuer, il est au-dessus.
Ah,
du top 5. Il est au-dessus du top 5. Il fait partie, pour moi, Manuel Neuer, il rentre pas dans le top 5 mondial. Il est numéro 1 pour toujours. Comme Ronaldo, l'attaquant, Ronaldo, le Brésilien. Il est numéro 1, il a révolutionné le poste du numéro 9, Manuel Neuer, et la révolution du gardien de but. Donc lui, il n'est pas dans le classement, il est numéro 1 pour toujours, dans l'éternité, Manuel Neuer.
Et l'homme du match face au Real Madrid au Bernabéu, pourquoi Neuer a révolutionné ce poste?
Neuer a révolutionné ce poste 2 points, et il doit faire 1m82, ou je ne sais plus. Hein. Bon, donc on voit les images, ça part d'elle-même. Il est capable de prendre une prise de balle dans des domaines aériens improbables, de les prendre, cette prise de balle, au point de pénalty. Il est capable de faire une relance à la main de 70 mètres. Il est capable de faire un jeu au pied de 100 mètres. Il est capable de tacler à 40 mètres de son but. Il est capable de courir le 100 mètres en 11 secondes. Enfin, c'est un gardien qui a une perfection dans la révolution du football moderne. Donc, il a absolument aucune carence et il a révolutionné le poste de gardien de but. Voilà le modèle. On a parlé d'Yachin, celui qui a introduit le rôle du gardien ballon d'or. Lui mérite un ballon d'or, j'ai envie de dire, pour la révolution qu'il a amenée dans notre poste.
Est-ce que tu comprends qu'en Allemagne se pose toujours le débat de son successeur parce qu'il a pris sa retraite internationale? Ter Stegen devait prendre le relais, finalement il est blessé, il ne pourra pas aller à la Coupe du Monde. Aujourd'hui c'est Oliver Baumann, le vétéran d'Offenheim, qui va garder le but de l'équipe d'Allemagne, avec Nübel derrière, peut-être le jeune Urbig. Mais est-ce que l'Allemagne ne devrait pas rappeler Manuel Neuer? Ça paraît, non? C'est...
Je pense que ce serait bien, Dinosov champion. Alors, je dis pas, on perd en finale contre la France, ça serait bien pour New York de finir comme ça. Ça serait pas mal, moi je suis d'accord. Alors, ça résume aussi ce que je viens d'expliquer pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, un New York, on en a parlé de 4. Les 4, il faudrait les 4 pour faire un New York, en fait. Voilà, c'est un peu le problème. En Allemagne, ça va être compliqué de passer derrière lui.
Tu penses que c'est possible qu'il sorte de sa retraite là pour la Coupe du Monde?
Ce serait plutôt une belle... Alors après, il faut voir avec Nagelsmann, il faut voir après les Allemands. Ils ont des... Comme disent en Allemagne, ils ont des Kopf, hein, ils ont des têtes. Hein, c'est chaud, hein, d'entre eux. Mais après, ils sont aussi pour la Mannschaft. Je pense qu'ils vont tous se réunir. Et puis si Neuer est vraiment le leader dont ils ont besoin, ils vont le prendre, indépendamment de leurs idées, de leurs critiques. Ils sont très comme ça, les Allemands. Donc ce serait bien de voir le meilleur gardien de tous les temps de finir la Coupe du Monde. Ce serait vraiment sympa.
Neuer qui est en fin de contrat, d'ailleurs, également avec le Bayern. Et on parle d'ailleurs d'une prolongation. Guillaume, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
D'habitude, c'est nous qui faisons les surprises.
Voilà, donc l'académie, c'est de 14 à 16 ans, de 16 à 19 ans et 20 ans et plus.
Ah,
donc,
très bien.
Vous avez
20 ans et plus.
Donc nous, on va faire les gardiens vétérans,
voilà.
Lolo.
Ça, c'est pour vous.
Ah, merci, Guillaume.
Tiens, ça, c'est pour toi. Voilà.
Tiens, voilà, je fais tout.
On fait tourner, voilà.
Merci, Guillaume.
Moi, j'ai pris la même taille. Alors, 20 ans et plus, peut-être qu'on ne fera peut-être pas les mêmes entraînements. Je vais réfléchir à faire une spécificité, peut-être barbecue, des choses comme ça.
Très bien.
Apéro,
voilà.
Tu disais que tu étais encore un peu dans le vin, donc.
C'est ça, exactement. Donc, on pourra faire ça, ouais.
À consommer avec modération, évidemment.
Voilà, voilà. En tout cas, merci de votre réception et merci pour tout, vraiment.
Voilà, on fera un spécifique gardien vétéran. Lolo, t'es prêt?
Ouais, bah, c'est toi qui n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, hein, je vous le dis, je vous annonce direct.
Guillaume, merci beaucoup.
Merci.
Bon stage, ça commence donc dimanche, les prochains.
Ouais, dimanche 12, et puis voilà, ça arrive de tous les côtés. 12, 14 ans la première semaine, et 14, 16 ans, et 17, 19 la deuxième semaine.
Très bien, donc pendant toutes les vacances d'avril, ça se passe à la Gaillette, ouais, au Racing Club de Lens, qu'on salue d'ailleurs, le club du Racing Club,
ouais,
de Lens.
Je les remercie, hein, je ne remercie jamais assez le président Gourdian, Jean-Louis Leca, Benjamin Parot, tout, vraiment tous les gens qui s'occupent de là-bas, qui me mettent dans les meilleures conditions et me disent toujours t'es chez toi ici, et je le suis vraiment, vraiment merci.
Voilà, c'est pour ça que c'est un club à part également, le Racing Club de Lens, qui lutte toujours pour le titre également en Ligue 1, même si ce sera compliqué d'aller chercher.
Oui, ben, à partir de la défaite de Lille, elle fait doublement mal. Le 3-0, bon, nous ont rendu la monnaie de la pièce du match aller, mais surtout c'est le vrai coup d'arrêt, c'est jamais terminé. Paris, un match en retard à Nantes. Bon, maintenant les Lensois, faut terminer en beauté. Il y a encore une demi-finale de Coupe de France dont je donnerai peut-être le coup d'envoi contre Toulouse.
Oh.
Et donc du coup, ben, y a la Coupe de France qu'on n'a jamais gagnée encore, RC Lens, donc voilà.
Effectivement, tu avais joué la finale toi avec,
ça,
avec les 100 RM. Merci Guillaume.
Merci à vous messieurs.
L'After FC est évidemment à retrouver sur la chaîne YouTube de l'After, et puis également sur toutes les plateformes de téléchargement. À très bientôt, à la semaine prochaine.